Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le cadre de cette conférence sur le comité social et économique. Ce comité social et économique est l'une des nouveautés très importantes mises en place par les ordonnances Macron. Il fait l'objet à lui tout seul d'une ordonnance, l'ordonnance 1386 du 22 septembre 2017, d'un décret du 29 décembre 2017, mais également d'une loi de ratification des ordonnances du 29 mars 2018. Nous allons voir donc dans un premier temps, comme vous pouvez le voir sur le sommaire détaillé, hein, nous allons voir la mise en place du CSE, du Comité social économique, puis dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser à son fonctionnement. Nous allons nous intéresser donc dans la mise en place du CSE aux entreprises qui sont concernées par cette mise en place, puis ensuite au calendrier 2018 et 2019 de mise en place, et enfin à l'organisation des élections professionnelles. Alors, on va donc voir ensemble la mise en place du CSE. Alors, qu'est-ce que le CSE? Le CSE, le Comité social et économique, c'est une véritable révolution dans le droit des instances représentatives du personnel, puisque c'est la fusion des anciennes instances représentatives du personnel, les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT, en une seule instance unique, le Comité social et économique. Nous allons voir ensemble donc comment le mettre en place et dans un premier temps les entreprises concernées par cette mise en place. Pour les entreprises concernées par la mise en place du comité social et économique. Le comité social et économique doit être mis en place dans les entreprises de 11 salariés ou plus. C'est la règle principale en vigueur. Pour déterminer si donc l'effectif de l'entreprise comprend 11 salariés ou plus, l'effectif de 11 salariés doit avoir été atteint pendant 12 mois consécutifs. C'est une nouveauté très importante car auparavant, la détermination était appréciée sur une période de 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 dernières années. Le gouvernement a voulu simplifier le décompte des effectifs en prenant en compte 12 mois, uniquement 12 mois consécutifs. Le décompte va se faire donc par mois. Donc, si l'effectif n'a pas été atteint pendant un mois au cours de l'année, par exemple, le décompte des 12 mois repart à zéro. Donc, on ne met pas en place le CSE. On ne mettra en place le CSE qu'à partir du moment où, pendant 12 mois, on aura atteint 11 salariés de façon consécutive. Pour la disparition de ce comité social et économique, la même règle s'applique. Mais à la fin du mandat, on ne procède pas au renouvellement, en fait, on ne procède pas au renouvellement du CSE, du mandat donc des membres du CSE, sans formalité. Il n'y a pas de formalité spécifique à mettre en place. Et donc, avant la fin du mandat, il va falloir vérifier qu'au cours des derniers mois, enfin au cours des 12 derniers mois, si l'entreprise a donc atteint cet effectif de 11 salariés ou non. Si elle ne l'a pas atteint, dans ce cas-là, pas de mise en place, pas de renouvellement en fait du CSE. Au niveau des règles maintenant de détermination de l'effectif à l'intérieur de l'entreprise, quels sont les salariés à prendre en compte? Ici, les règles sont inchangées, ce sont toujours celles prévues par les articles L1111-2 du Code du travail et L1251-54 du Code du travail pour déterminer l'effectif. À l'intérieur de l'entreprise. Ces règles donc restent inchangées. Cependant, on a une petite différence que nous allons voir ensemble. Ici, les salariés en CDI à temps plein, salariés à domicile à temps plein sont toujours pris en compte. Salariés en contrat de travail intermittent également. Les salariés en CDD, sauf le CDD concernant le remplacement d'un salarié absent, auquel cas là, on ne le comprend pas, on comprend pas le salarié dans les effectifs. Les salariés temporaires sont compris également au prorata. Les salariés à temps partiel également au prorata de leur temps de présence. Enfin, pour les salariés mis à disposition, c'est là qu'on a une petite subtilité. Il y avait auparavant une inéligibilité pour les élections des membres du comité d'entreprise, mais on a une jurisprudence de 2012, du 5 décembre 2012, qui avait ensuite admis l'éligibilité des salariés mis à disposition dans l'entreprise utilisatrice pour la fonction de représentant à la délégation unique du personnel uniquement. Après Donc, on a eu la loi Rebsamen de 2014 et de 2015 sur la question. Il n'y a pas eu ensuite de jurisprudence pour définir clairement la situation. La loi n'avait pas prévu pour la nouvelle dupe si les salariés mis à disposition étaient compris dans l'effectif. Il y avait un flou juridique. Désormais, avec donc l'ordonnance, la règle est claire. Il y a une inéligibilité pour les salariés mis à disposition dans l'entreprise utilisatrice, sauf s'ils sont présents dans l'entreprise depuis plus d'un an de façon continue. Donc, un an de présence continue sont requis hein, pour les décompter dans l'effectif. Voilà pour les règles concernant les entreprises concernées par la mise en place du CSE. Passons ensemble au calendrier 2018 et 2019 de mise en place. Alors, concernant ce calendrier 2018 et 2019 de mise en place, toutes les dispositions sont régies et prévues à un seul article. C'est l'article 9, cinquièmement, de l'ordonnance 1386 du 22 septembre 2017. Alors, pour le premier cas de mise en place, on s'intéresse ici en fait à la date du protocole d'accord préélectoral, à la date de signature de ce protocole d'accord préélectoral. Le protocole d'accord préélectoral, qu'est-ce que c'est? C'est un document par lequel l'employeur et les organisations syndicales intéressées s'entendent pour l'organisation matérielle des élections. L'employeur est tenu d'engager la négociation sur le processus électoral. Le protocole, qui n'est pas un accord collectif de travail à proprement parler, répond à des règles de validité qui lui sont propres. Si le protocole d'accord préélectoral est signé avant la mise en place des ordonnances, c'est-à-dire avant le 24 septembre 2017, et que le mandat s'arrête donc derrière après le 1er janvier 2020, c'est le cas notamment de la flèche verte que vous avez, c'est le cas le plus simple car on peut mettre en place le comité social et économique à tout moment. Alors, soit par accord collectif, alors par accord collectif dans un premier temps, ou à défaut, si on n'a pas d'accord, par décision unilatérale de l'employeur, mais après consultation du comité d'entreprise, l'ancien comité d'entreprise, ou à défaut des anciens délégués du personnel. Voilà pour ce premier cas qui correspond à la flèche verte. Maintenant, on va s'intéresser à la situation où le mandat prendrait fin entre le 24 septembre 2017 et le 31 décembre 2018. Le 1er janvier, excusez-moi, le 1er janvier 2018, c'est le cas notamment de la flèche rouge que vous avez sous les yeux. La prorogation ici est automatique et obligatoirement automatique du contrat. Alors qu'est-ce que c'est la prorogation du mandat? C'est le fait d'augmenter la durée du mandat, de dépasser hein, la durée initialement prévue de 4 ans. Ici, cette prorogation-là est obligatoire jusqu'au 1er janvier 2018. Et à compter du 1er janvier 2018, on rentre ensuite dans le cas de la flèche jaune, c'est-à-dire que si le mandat prend fin pendant l'année 2018, du 1er janvier au 31 décembre 2018, on a une possibilité qui est offerte de proroger le mandat d'un an au maximum, c'est-à-dire d'augmenter la durée du mandat d'un an, ou de réduire d'un an au maximum le mandat. Toujours avec les mêmes règles. C'est-à-dire, on passe par l'accord collectif, ou à défaut, par une décision de l'employeur après consultation du CE, ou à défaut des délégués du personnel. Donc ça, c'est le cas de la flèche jaune, possibilité de proroger ou de réduire le mandat. Il faudra faire juste une petite subtilité sur ce point-là. Il faudra faire attention si on a une réduction de la durée du mandat. Si on opte pour la réduction de la durée du mandat, pas de possibilité dans ce cas-là de réduire en fait le mandat ne pourra pas être réduit avant le 24 septembre 2017, puisqu'on retombe, si le protocole d'accord préélectoral a été signé avant le 24 septembre 2017, dans le raisonnement utilisé pour la flèche verte hein, que l'on voit. Voilà pour l'année 2018. Et concernant l'année 2019, on a une petite subtilité, puisque ce cas-là n'avait pas été très bien précisé dans l'article 9 de l'ordonnance 1386, mais la loi de ratification des ordonnances du 29 mars 2018 à simplifier le raisonnement. Pour les mandats qui arrivent à échéance entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, c'est le cas de la flèche violet, il n'y aura la possibilité que de réduire la durée du mandat en mettant en place le CSE. Pas de possibilité de prorogation du mandat. Pourquoi? Parce que c'est des raisons évidentes de délai. On risque de dépasser en fait la date du 1er janvier 2020 si on prolonge la durée du mandat. Et il faut savoir qu'au 1er janvier 2020, tout le monde, toutes les entreprises concernées par la mise en place du CSE doivent l'avoir fait. Au 1er janvier 2020, tout le monde devra être passé au CSE. Voilà pour ce calendrier 2018-2019. On va s'intéresser dorénavant donc à l'organisation des élections professionnelles. Pour l'organisation des élections professionnelles, on note peu de changements majeurs. Les dispositions principales ont été fixées dans un décret, le décret donc relatif au CSE du 29 décembre 2017, qui prévoit notamment le nombre de mandats et le nombre d'heures de délégation dans un tableau que nous allons voir ensemble. Là, vous l'avez sous les yeux. Donc, au niveau de ce tableau, comme auparavant, donc le Code du travail laisse la possibilité de négocier lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral une augmentation du nombre de mandats et du nombre d'heures de délégation. Donc on peut aller plus loin que ce tableau qui est prévu par la loi. Par contre, si on veut réduire donc ici le nombre de mandats, on peut effectivement le négocier dans le protocole d'accord préélectoral, si, à la condition bien entendu, si le nombre d'heures de délégation respecte celui imposé par la loi. En d'autres termes, on ne peut réduire uniquement que le nombre de mandats, mais pas le nombre d'heures de délégation. Qu'est-ce que ça a comme impact? Ben, on aura en fait plus d'heures de délégation pour les mandats qui seront en nombre inférieur. Voilà pour cette petite possibilité qui est offerte par l'ordonnance. Au niveau du nombre de sièges à pourvoir, pour déterminer le nombre de mandats, hein, de sièges à pourvoir, le nombre de sièges à pourvoir doit, comme auparavant, être déterminé en fonction de l'effectif de l'entreprise au premier tour des élections professionnelles, depuis une jurisprudence constante de 1986. Donc là, pas de nouveauté, si ce n'est que pour cette jurisprudence constante depuis 1986, ben désormais la règle, elle est insérée dans le Code du travail, donc elle aura valeur légale. Voilà pour ce point-là. Au niveau des autres nouveautés, on a une deuxième nouveauté importante dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles, c'est le fait que le nombre de mandats successifs est limité à 3. Il n'y avait eu jusqu'alors aucune limite en termes de renouvellement de mandat. Désormais, une limite est posée par le Code du travail. Donc, il est prévu la possibilité de déroger à cette règle. Alors, il y a une exception, hein, pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, cette règle ne s'appliquera pas dans les entreprises de moins de 50 salariés. Mais il est prévu également la possibilité de déroger à cette règle dans le protocole d'accord préélectoral pour les entreprises de 50 à 300 salariés. Pour les entreprises de 50 à 300 salariés. Au-delà de 300 salariés, la limitation est impérative. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir, on ne pourra pas, avoir plus de 3 mandats successifs pour le même salarié, la même personne. Il convient de préciser également que cette limite n'impactera que les futurs membres du CSE, donc pour les anciens membres du comité d'entreprise, délégués du personnel, etc. Là, on ne prend pas en compte les anciens membres pour cette règle du nombre de mandats successifs limité à 3. Il faut savoir également, pour prendre un exemple concret, que si le mandat est limité dans le protocole d'accord préélectoral à 2 ans, car on a une possibilité de le négocier, comme auparavant, on peut aller jusqu'à 2 ans minimum au niveau de la durée du mandat. Dans ce cas-là, cette règle de la limitation du mandat successif s'appliquera, puisqu'un salarié élu plusieurs fois n'aura pas la possibilité d'aller au-delà de 6 ans, si le mandat est réduit à 2 ans, puisque s'il va au-delà de 6 ans, il se représente en fait une quatrième fois, ce qui n'est pas possible. Voilà pour ces deux nouveautés importantes. Ici, on va s'intéresser ensuite à une autre nouveauté qui concerne les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes. C'est la loi Rebsamen qui avait mis en place ces règles de représentation équilibrée, donc une loi de 2015, mais elle avait eu en fait un effet pervers, dans le sens où on avait une situation où l'un des sexes, le candidat qui avait l'un des sexes, ne pouvait pas être représenté sur les listes électorales en cas de surreprésentation de l'autre sexe dans l'effectif de l'entreprise. S'il y a surreprésentation, ben, le candidat qui n'avait pas le sexe surreprésenté ne pouvait pas se présenter. L'ordonnance a voulu corriger cet effet négatif pour la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Donc, en cas de sexe non représenté par surreprésentation de l'autre sexe, un candidat d'un sexe non représenté pourra quand même se présenter, mais sans pouvoir être tête de liste. Donc, une limitation, il ne pourra pas être tête de liste, hein. Voilà pour ce point précis. Une nouveauté également concernant ces règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes, si elles ne sont pas respectées, auparavant, on annulait les élections et on réorganisait de nouvelles élections. On ne mettait pas en place des organisations partielles. Désormais, c'est effectivement le cas, c'est-à-dire qu'en cas d'annulation en cas de non-respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes, on organisera des élections partielles au lieu de les annuler. Contrairement au texte antérieur. À ce sujet, concernant les élections partielles, il faut savoir que c'est la seule nouveauté. Sinon, comme auparavant, les élections partielles, hein, pour rappel, doivent être organisées si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des élus titulaires du CSE est réduit de moitié ou plus. Une dérogation est toujours bien entendu applicable si ces événements dont on vient de parler surviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat. Voilà, ces règles restent inchangées. En termes de délai maintenant, ici il existe une nouveauté qui prévoit que la demande d'organiser de nouvelles élections professionnelles suite à un procès-verbal de carence ne peut intervenir que 6 mois après l'établissement du procès-verbal, c'est-à-dire que si l'organisation des élections professionnelles donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence, puisqu'il n'y a eu aucun candidat, derrière, on ne pourra pas organiser de nouvelles élections professionnelles sans respecter ce délai de 6 mois après l'établissement du procès-verbal. Enfin, une petite exception spécifique, mais qui reste importante, qui était inexistante auparavant, dans les effectifs. Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés, l'employeur invite les organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral, à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l'information du personnel. Autrement dit, point d'invitation des syndicats sans candidature d'un salarié dans le mois suivant l'information du personnel, ce qui est une nouveauté très importante dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés. Cette nouvelle disposition a entraîné l'apparition d'une controverse. En effet, parce que derrière, si aucun salarié ne s'est porté candidat, l'employeur doit-il organiser les élections? C'est la question que se posaient effectivement tous les auteurs. Il semblerait que ce ne soit pas le cas au vu de la réponse donnée par l'administration. Dans le formulaire CERFA du PV de carence, la zone 1 du CERFA numéro 15-248 astérix 03, et dans également les 100 questions-réponses du ministère du Travail du 19 avril 2018 à la question 39, l'administration répond à la question. Elle indique que l'employeur n'aura pas à organiser de nouvelles élections professionnelles. Donc, si jamais aucun salarié ne s'est porté candidat, donc dans le mois qui suit l'information du personnel, on n'aura pas à inviter les organisations syndicales et on n'aura pas à organiser les élections professionnelles derrière. On mettra en place un PV, un procès-verbal de carence. Également, en plus de l'administration, on a une décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2018. Alors, le Conseil constitutionnel n'a pas répondu directement à la question, mais il a confirmé cette nouvelle disposition, cette exception, et dans son argumentation, il a considéré que le salarié qui serait lésé par la non-organisation des élections professionnelles pourrait demander l'organisation de nouvelles élections professionnelles à son employeur dans le délai de 6 mois après l'établissement du procès-verbal. On en a parlé tout à l'heure, c'était la mesure précédente. Donc, le salarié qui serait lésé pourrait demander donc à l'employeur d'organiser de nouvelles élections dans le délai de 6 mois après l'établissement du procès-verbal. Voilà pour cette petite exception. Alors, pour illustrer ces nouvelles dispositions, voici un petit schéma de mise en place des élections professionnelles, de l'organisation des élections professionnelles. On y retrouve bien dans un premier temps ce cas particulier dont on vient de parler, que vous voyez en bas à gauche de votre écran, concernant donc les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés. On retrouve le délai de 30 jours pendant lequel, si aucun salarié ne s'est porté candidat, derrière, on établit un PV de carence et donc c'est la fin des élections. C'est la flèche en bleu foncé. Au niveau des autres délais, à ce niveau-là, il existe une petite modification sur le délai de 90 jours maximum entre l'information du personnel et le premier tour des élections professionnelles. C'est ce délai, vous le voyez sur la flèche en bleu ciel. Donc, cette petite modification sur le délai de 90 jours, qu'est-ce que c'est? Auparavant, ce délai de 90 jours entre l'information du personnel de l'organisation des élections professionnelles et le premier tour des élections professionnelles existait, mais il ne s'appliquait qu'en cas de première mise en place du comité d'entreprise, de l'ancien comité d'entreprise. Désormais, pour le comité social et économique, pour l'organisation de ces élections, ce délai de 90 jours entre l'information du personnel et le premier tour des élections professionnelles va s'appliquer en cas de renouvellement de l'instance également, donc en cas de première mise en place du CSE, mais également en cas de renouvellement du CSE, et enfin également en cas d'existence d'un PV, d'un procès-verbal de carence, si derrière on réorganise de nouvelles élections. Voilà pour ce délai de 90 jours. Les autres délais, eux, restent inchangés. C'est les délais que vous voyez en rouge en haut donc de notre flèche du schéma. Ici, alors, pour ces délais-là, les délais d'invitation des syndicats restent les mêmes. C'est maximum 2 mois avant la fin des mandats en cours et 15 jours avant la date de la première réunion de négociation, donc entre ces deux délais. La liste des organisations syndicales à inviter reste la même également. Alors, on a 4 types d'organisations syndicales à inviter. Les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dans le champ professionnel et géographique couvrent l'entreprise ou l'établissement concerné. Également, deuxième type d'organisation syndicale, les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, les syndicats enfin affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Voilà les 4 types d'organisations syndicales invitées, je les ai indiquées pour rappel. Aucune nouveauté sur ce point-là. Enfin, le premier tour doit toujours avoir lieu au maximum 15 jours avant la fin des mandats en cours. Ça c'est important, ça reste toujours effectivement d'actualité. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, dans ce cas-là, on procède à un second tour de scrutin dans un délai de 15 jours maximum après le premier tour. Donc là, rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours pareil par rapport à auparavant. Par rapport aux organisations, à l'organisation des élections professionnelles pour les délégués du personnel, pour le CE. Là, pour le CSE, ça sera la même chose. À l'occasion de ce deuxième tour, les électeurs donc peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. Pas de nouveauté. Dernière, peut-être petite nouveauté que vous retrouvez en bas du schéma en gris. Donc, l'ordonnance rectificative du 20 décembre 2017, alors on avait 5 ordonnances, il y en a une sixième qui a été prise par le gouvernement. Cette ordonnance rectificative du 20 décembre 2017 a prévu que les stipulations des accords d'entreprise relatifs aux anciennes institutions représentatives cessaient de produire effet à compter de la date du premier tour des élections du comité social économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les accords d'entreprise qui prévoyaient, par exemple, une durée de mandat inférieure pour les délégués du personnel, pour le comité d'entreprise, ben, ces accords cessent de prendre effet à partir du moment où on atteint le premier tour des élections, la date de premier tour, du premier tour des élections du comité social et économique. Voilà pour ces points-là. Concernant, on va s'intéresser maintenant à la mise en place des CSE d'établissement, comité social et économique d'établissement. Donc, que vous voyez ce nouveau slide. Ici, là, on a une nouvelle détermination du périmètre de mise en place du CSE central et des CSE d'établissement dans l'entreprise. Alors, concernant la mise en place des CSE d'établissement, ils peuvent être mis en place selon une procédure stricte. Le gouvernement, en effet, a voulu simplifier la détermination des établissements distincts qui s'effectuaient auparavant en respectant les critères posés par la jurisprudence pour la mise en place du comité d'entreprise, donc d'établissement, et du comité central d'entreprise. Ça, c'était auparavant. On avait des critères posés par la jurisprudence, une implantation géographique distincte, une certaine stabilité dans le temps, un degré d'autonomie suffisant qui était apprécié au cas par cas par les juges. Désormais, c'est le dernier critère qui a été retenu, c'est l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Ça fait partie de l'une des deux conditions à remplir pour mettre en place donc un CSE central et des CSE d'établissement. La deuxième condition, ben, c'est tout simplement qu'il faut qu'il y ait deux établissements distincts, donc obligation d'avoir deux établissements distincts. Donc ça, c'est les deux conditions à remplir pour pouvoir mettre un CSE central et des CSE d'établissement. Enfin, une fois les deux conditions remplies, on rentre dans la procédure qui a été modifiée. Alors, la détermination de ce périmètre, hein, du fait de déterminer des CSE d'établissement et un CSE central, fait l'objet, dans un premier temps, d'un accord d'entreprise qui est négocié par un délégué syndical qui représente une organisation syndicale ayant obtenu 50% des suffrages lors des dernières élections professionnelles. C'est un accord dit majoritaire qu'il faut mettre en place. Si on n'a pas pu mettre en place cet accord majoritaire, ou si on n'a pas de délégué syndical, donc en l'absence de délégué syndical ou de majorité requise, l'accord est passé entre l'employeur et le comité social et économique à la majorité des membres titulaires élus. À défaut, donc si jamais on n'a pas réussi à avoir cette majorité, dans ce cas-là, c'est l'employeur qui prend la décision par une décision unilatérale, après convocation du délégué syndical pour l'inviter à négocier, et sinon, donc, convocation à défaut du comité social et économique. Si l'employeur procède directement à la détermination des établissements distincts, donc en brûlant l'étape 1 et 2 que vous voyez sur notre schéma, dans ce cas-là, il y a une possibilité de contestation. De la même façon, s'il ne convoque pas le délégué syndical ou les membres du CSE, possibilité de contestation devant la directe dans le délai de 15 jours qui suit donc la décision unilatérale de l'employeur. Et ensuite, si on veut contester la décision de la directe qui est prise dans le délai de 2 mois, dans ce cas-là, on peut la contester devant le tribunal d'instance dans le délai de 15 jours également. La perte de la détermination d'un établissement distinct s'effectue également en suivant la même procédure si on veut en fait supprimer donc un CSE d'établissement, puisqu'on n'a plus d'établissement distinct, on ne remplit plus les conditions. On suit la même procédure. Enfin, cet accord, l'accord de mise en place du périmètre de mise en place du CSE central, qui est appelé communément un accord de mise en place du CSE, du point de vue des auteurs sur la question, cet accord peut prévoir la mise en place de représentants de proximité. Alors attention, les représentants de proximité, on ne peut pas les mettre en place dans le protocole d'accord préélectoral, mais dans cet accord-là, cet accord de détermination du périmètre de mise en place du CSE central et des CSE d'établissement, cela reste une possibilité qui est offerte. C'est pas une obligation, c'est une possibilité offerte. Pourquoi? Parce que le gouvernement considérait que derrière, ça pouvait en fait entraîner une centralisation excessive au niveau du CSE central. Donc ici, on a préféré mettre en place en fait ces représentants de proximité pour avoir plus de représentation au niveau des établissements. Alors, qu'en est-il de ces représentants de proximité? Ce sont des membres en fait du comité social et économique ou des salariés de l'entreprise, ça peut être des salariés de l'entreprise, hein, qui sont désignés par les membres du CSE, du comité social et économique. Ils se verront attribuer un mandat qui prendra fin en même temps que ceux des membres du comité social et économique. C'est un accord qui leur octroiera des heures de délégation et le droit de participation aux réunions du CSE d'établissement. À défaut, s'il n'y a pas d'accord mis en place, ils ne bénéficient que des heures de délégation des membres du CSE, mais pas, par contre, du droit de participation aux réunions. Dernier point très important pour ces représentants de proximité, il faut savoir qu'ils bénéficient par contre d'une protection comme les membres du comité social et économique. Donc, en cas de licenciement, attention, en cas de licenciement d'un représentant de proximité, attention parce qu'il est protégé, il faudra demander l'autorisation à l'inspecteur du travail. Voilà ici pour ces règles donc de mise en place du comité social et économique. On va s'intéresser donc dorénavant au fonctionnement du comité social et économique dans l'entreprise. Alors ici, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la répartition des compétences de ce comité social et économique, puisqu'il fait la fusion entre l'EDP, donc les délégués du personnel, le CE, le comité d'entreprise et le CHSCT. Comment vont être réparties les compétences, on va le voir ensemble. Puis ensuite, on s'intéressera à l'organisation des réunions. Et enfin, au financement de ce CSE. Alors, concernant la répartition des compétences au sein du comité social et économique. Ici, en l'occurrence, il y a une détermination qui est faite en fonction de l'effectif de l'entreprise. Une détermination qui est faite, une répartition des compétences qui est faite, mais qui sera différente de la répartition des délégués du personnel du comité d'entreprise, même si on a l'impression d'un premier abord que c'est la même. Dans les entreprises de 11 à 20 salariés, dans les entreprises de 11 à 49 salariés, je vous prie de m'excuser, de 11 à 49 salariés, c'est la délégation du personnel du comité social et économique qui est mise en place. C'est le petit encadré, le premier petit encadré à gauche de votre écran. Elle conserve les compétences des anciens délégués du personnel, c'est-à-dire qu'elles apportent en fait les réclamations individuelles ou collectives des salariés à l'employeur. C'est un premier point, donc ça, elle conserve cet aspect-là. L'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, le droit d'alerte qu'avaient les délégués du personnel, n'a pas été modifié, malgré sa disparition dans l'ordonnance 1386 du 22 septembre 2017, mais qui a été réhabilité par la suite par la loi de ratification des ordonnances du 29 mars 2018. Donc, ce droit d'alerte y reste inchangé. La délégation du personnel du CSE conserve également la possibilité de saisir l'inspection du travail. Elle peut toujours donc saisir l'inspection du travail concernant l'application des dispositions légales, mais aussi réaliser des enquêtes en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ça, c'est toujours d'actualité. Toujours réalisation d'enquête. Par contre, ce qui change, c'est la consultation sur l'utilisation du CICE. Donc, ici, cette consultation est supprimée et également les missions en matière de formation professionnelle qui sont supprimées. Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, c'est le petit encadré central que vous avez sur le comité social économique. Le comité social économique conserve les compétences des anciens délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT réunis, conserve toutes les compétences. Ce qui implique, en termes de compétences donc, de l'ancien comité d'entreprise, d'assurer l'expression collective des salariés, mais également toujours d'assurer l'expression individuelle, hein, les réclamations individuelles des salariés, puisque il conserve les compétences également des anciens délégués du personnel à partir du moment où on met en place un CSE, donc dans les entreprises de 50 salariés et plus. Donc, il conserve les compétences du comité d'entreprise, l'expression collective des salariés. Le comité est toujours donc informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion, la marge générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature affecter le volume ou la structure des effectifs, la modification de l'organisation économique ou juridique, les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle, l'introduction enfin de nouvelles technologies, ça c'est toujours concerné, tout aménagement également important qui modifie les conditions de santé, de sécurité ou des conditions de travail, pour ça c'est pour le CHSCT également, en termes de compétences hein, du CHSCT, de l'ancien CHSCT, le comité social économique dans les entreprises de 50 salariés ou plus, procède à l'analyse des risques professionnels, contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et procède à des actions de prévention contre le harcèlement moral et sexuel. Il y a une petite différence à noter, le CSE disposerait, selon les auteurs, la doctrine, d'une baisse un petit peu des compétences, légèrement, au niveau des termes en fait, parce que l'ancien terme au niveau du CHSCT, c'était l'amélioration des conditions de travail. Ce terme-là disparaît. Ici, on indique plutôt des termes comme procède à l'analyse des risques, contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, procède à des actions de prévention. Est-ce que ça va avoir un impact à l'avenir? Ça, il faudra le voir du point de vue, voilà, des futures décisions. Du point de vue des textes, on peut dire pour l'instant quand même qu'ils conservent en matière générale, hein, les compétences de l'ancien CHSCT. Ici, au niveau des droits d'alerte, maintenant, les droits d'alerte sont conservés. C'est-à-dire que le CSE, dans les entreprises de 50 salariés ou plus, conservera l'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, l'alerte en cas de danger grave et imminent. Alors, l'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, on l'a vu tout à l'heure, hein, les conserver également pour le CSE dans les entreprises de 50 salariés ou plus. L'alerte en cas de danger grave et imminent, l'alerte en cas d'utilisation non conforme du CICE, qui ici n'est pas supprimé, le droit d'alerte économique et enfin l'alerte en matière de contrat précaire, ce qu'on appelle le droit d'alerte sociale. Pour les consultations maintenant du comité social et économique, on conserve la base de données économiques et sociales, la BDES. La BDES, qu'est-ce que c'est? C'est un socle en fait de documentation avec des intitulés, des thèmes obligatoires. Donc un socle de documentation que doit mettre à disposition l'employeur aux membres élus du CSE. Alors, aux membres titulaires, hein, au niveau de cette base de données, on a des documents, des documentations qui vont concerner donc 9 thèmes, qui vont concerner donc les 2 années antérieures, l'année en cours et les 3 années à venir. Voilà, important sur ce point-là parce qu'il y aura, et il y a déjà eu par le passé, des risques de délit d'entrave si l'employeur ne respectait pas ces 9 thèmes. Alors, quels sont ces nouveaux thèmes donc, qui sont précisés aux articles R 2312-8 et R 2312-9 du Code du travail? C'est le décret hein, du CSE du 29 décembre 2017 qui les a mis en place. Ici, ces 9 thèmes sont l'investissement, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement et les impôts, la rémunération des salariés et des dirigeants, les activités sociales et culturelles, alors là, le montant de la contribution, le mécénat, la rémunération également des financeurs, les flux financiers à destination des entreprises, les partenariats et pour les entreprises appartenant à un groupe, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Donc les 9 thèmes sont conservés. Alors il faut savoir qu'il y a une petite distinction en fonction de l'effectif de l'entreprise, car dans les entreprises de 300 salariés et plus, l'article R 2312-9 du Code du travail prévoit que les intitulés et les thèmes généraux seront les mêmes, mais les documents précisés dans l'article seront plus nombreux. Parce que au niveau des thèmes, en fait, si vous regardez à l'intérieur de l'article, vous avez tous les documents que l'employeur doit transmettre. Dans les entreprises de 300 salariés et plus, on demande un peu plus de documents, de documentation qui seront précisés hein, au niveau de ces thèmes-là. La nouveauté est qu'il est possible de négocier par un accord d'entreprise ou, à défaut, avec le comité social et économique, l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économique et sociale. Attention toutefois à bien respecter les thèmes légaux au minimum hein, dans l'accord. On ne peut pas descendre en dessous de ces 9 thèmes. Sinon, on risque de commettre un délit d'entrave pour l'employeur. Au niveau maintenant des 3 grandes consultations périodiques annuelles, c'est au niveau des réunions, sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, elles demeurent obligatoires. Elles sont d'ordre public. Le CSE a la possibilité de recourir dans ce cadre-là à un expert comptable. Ça ne change pas par rapport à auparavant, sauf que pour la première consultation, il a le choix de recourir également à un avocat. Nouveauté, petite nouveauté. La nouveauté, la grosse nouveauté également sur ces consultations périodiques annuelles, c'est qu'un accord d'entreprise, ou à défaut un accord avec le comité social et économique, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités donc de ces trois grandes consultations. Au niveau, cette fois-ci, du CSE central. Le comité social et économique central, le CSE central, lorsqu'on a des CSE central et des CSE d'établissement, vous vous rappelez, on a vu ensemble les règles de détermination dans la première partie, dans la mise en place du CSE. Le CSE central est le seul consulté sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies. En fait, lorsqu'on a un projet, c'est le CSE central qui est consulté. Le CSE central, il dispose d'une compétence exclusive en matière de consultation relative aux mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements, des projets d'introduction de nouvelles technologies, d'aménagements importants également qui modifient les conditions de santé, de sécurité et des conditions de travail. Le CSE central est également compétent s'agissant des orientations stratégiques de l'entreprise, de la situation économique et financière de l'entreprise et de ces mesures d'aménagement dont on vient de parler. Qu'est-ce que ça implique pour le CSE d'établissement? Ça implique qu'il n'est pas consulté, sauf si on a un projet, comme par exemple sur les trois derniers cas, sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur les mesures d'aménagement ou sur la situation économique et financière de l'entreprise, qui va concerner un établissement particulier. Là, le CSE d'établissement en particulier, concerné par le projet, devra être consulté au risque de, sinon, de commettre un délit d'entrave. Enfin, les activités sociales et culturelles relèvent de la compétence des CSE d'établissement. Les CSE d'établissement peuvent confier la gestion de ces activités sociales et culturelles communes au CSE central. On verra comment faire par accord d'entreprise majoritaire, donc conclu avec un délégué syndical représentant une organisation syndicale qui a obtenu 50% des élections professionnelles, qui peut définir effectivement les compétences respectives des CSE d'établissement ou du CSE central. Alors ça, c'est un accord qui définit véritablement les compétences, qui peut modifier un petit peu toute la structure dont on vient de parler, notamment en termes de gestion d'activités sociales et culturelles, mais aussi également au niveau des consultations sur les projets qui peuvent être, le CSE d'établissement peut avoir une consultation automatique. Voilà pour ces points-là. On reviendra d'ailleurs sur ce point au niveau des activités sociales et culturelles dans le financement du CSE. Pour ce qui est désormais de la commission santé, sécurité et conditions de travail. La commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place dans les entreprises qui ont 300 salariés ou plus. Les entreprises ou les établissements distincts qui ont moins de 300 salariés ou plus. Ou sinon, dans les sites Seveso, installations nucléaires, qui auraient bon, 300 salariés, ça c'est sûr, ou sinon, en dessous, qui auraient moins de 300 salariés, là auquel cas, également, on met en place une commission santé, sécurité et conditions de travail pour ces cas un petit peu particuliers, les sites Seveso, les installations nucléaires. Elle conserve les compétences de l'ancien CHSCT. Elle va en fait prendre ses compétences sur le comité social économique, puisque c'est une commission du comité social économique. Les membres de cette commission sont désignés par le comité social économique. Par contre, s'ils veulent recourir à une expertise, ils en ont la possibilité, mais doivent demander une décision du comité social et économique. Ils ne peuvent pas décider tout seuls de mettre en place une expertise. Il doit y avoir une décision prise sur ce point-là. Enfin, il n'y a pas d'attribution consultative de la commission santé, sécurité et conditions de travail en matière d'hygiène. Voilà pour ce point-là. Au niveau des formations, on a 5 journées de formation prévues pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail. 3 journées de formation si l'effectif est inférieur à 300 salariés. Il faut savoir que la loi de ratification des ordonnances a prévu que les 5 journées de formation seraient également, les membres du comité social économique en bénéficieraient également. Ces 5 journées de formation sont dispensées par des organismes habilités. Enfin, dernier point, un accord d'entreprise peut mettre en place les modalités de l'organisation de la commission santé, sécurité et conditions de travail, notamment sur l'organisation des réunions. Sinon, Ces modalités peuvent être définies dans le règlement intérieur. C'est une possibilité également qui est offerte. Voilà pour cette répartition des compétences au sein du comité social et économique. Intéressons-nous également aux commissions, donc aux 5 commissions qui peuvent être mises en place. Alors, au niveau des commissions, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Pour les 3 premières commissions qui avaient été également mises en place pour le comité d'entreprise, les commissions formation, commission d'information et d'aide au logement, la commission de l'égalité professionnelle, c'est obligatoire pour les entreprises de 300 salariés plus, pas de nouveauté. Pour la commission des marchés, qui est une commission un petit peu spécifique, il faut remplir 2 des 3 critères, 50 salariés ou plus, 3 100 000 euros de chiffre d'affaires ou 1 550 000 euros dans le bilan social. Si on remplit 2 des 3 critères, on la met en place. La seule nouveauté qu'il y a, c'est que pour la commission économique, commission très spécifique, obligatoire pour les entreprises de 1000 salariés et plus, là, l'employeur participe et préside à la commission, une réunion qui a lieu 2 fois par an, alors qu'auparavant, l'employeur n'y participait pas et ne présidait pas cette commission-là. On a une possibilité de créer des commissions supplémentaires par accord collectif. Donc ça, si on veut mettre en place des commissions supplémentaires sur d'autres thèmes. Voilà pour ces commissions. Au niveau maintenant de l'organisation des réunions du comité social et économique. La première réunion du comité social et économique est importante, car il y a un certain nombre d'actions importantes à réaliser au cours de cette réunion. Un mois après l'élection du comité social et économique, il appartient à l'employeur d'organiser la première réunion. L'employeur, président du comité social et économique, fixe seul l'ordre du jour. À défaut d'accord d'entreprise, l'employeur doit communiquer au CSE obligatoirement une documentation économique et financière qui précise la forme juridique de l'entreprise, son organisation, les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées, la position de l'entreprise au sein du groupe et la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10% du capital, la position de l'entreprise également dans la branche d'activité à laquelle elle appartient. Ça, c'est une documentation à mettre en place, même si vous aviez mis en place une base de données économique et sociale auparavant, avec l'ancien comité d'entreprise, on doit obligatoirement donner cette documentation économique et financière lors de la première réunion. C'est également à l'occasion de cette première réunion qu'il convient de procéder à la désignation du secrétaire et du trésorier, ça c'est très important, mais on n'a plus de secrétaire ni de trésorier adjoint, ils ont disparu au niveau des ordonnances, ça a été supprimé. Donc ici, il faudra désigner ce secrétaire et ce trésorier, mais également le représentant au conseil d'administration ou à l'assemblée générale des actionnaires dans les entreprises concernées. Normalement, c'est un membre désigné par le CSE, à voir en fonction de la situation si on peut en avoir 2. On a également l'élaboration du règlement intérieur, très important, même si on avait un règlement intérieur auparavant, avant la mise en place du CSE, il faut en élaborer un nouveau. Il faut également faire la reddition des comptes par les anciens membres du comité d'entreprise, hein. Reddition des comptes en fait du budget d'activité sociale et culturelle et du budget de fonctionnement. On va revenir ensuite dessus lors de la partie sur le financement. Donc un compte rendu, une reddition des comptes qui doit être faite lors de la dernière réunion avec transmission donc lors de la première réunion du CSE. De cette reddition des comptes. Présentation de la base de données économique et sociale à faire lors de cette première réunion et l'élaboration d'un calendrier des futures réunions et des modalités, notamment sur la possibilité de recourir à la visioconférence. À défaut d'accord, c'est 3 réunions par année civile qui sont autorisées. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE se réunira une fois par mois. Les questions des membres concernant les réclamations individuelles ou collectives des salariés devront être envoyées 2 jours avant et l'employeur pourra répondre 6 jours après. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la périodicité conservée, c'est une fois par mois dans les entreprises de 300 salariés et plus, une fois tous les 2 mois pour les entreprises de moins de 300 salariés. Mais cette périodicité peut être modifiée par accord collectif dans le sens d'une réduction, c'est 6 réunions minimum dans l'année. Le délai de communication de l'ordre du jour est de 3 jours. Alors, il y a une question qui se posait, est-ce qu'on prenait l'ordre du jour, le délai de communication de l'ordre du jour du comité d'entreprise ou est-ce qu'on prenait celui de la DUP qui était de 8 jours? Le délai de communication du comité d'entreprise, c'était 3 jours. L'ordonnance a validé le délai de communication du comité d'entreprise 3 jours avant la réunion prévue. Une petite nouveauté, les suppléants ne peuvent pas participer aux réunions du comité social-économique, sauf en cas de remplacement d'un titulaire. Dans les entreprises toujours de 50 salariés plus, l'employeur peut être assisté par trois représentants au lieu de deux. Ça, c'est une nouveauté, au lieu de deux auparavant. L'employeur ne peut pas participer au vote lorsque le comité social-économique est consulté en tant que délégation du personnel concernant les réclamations individuelles et collectives des salariés dans les entreprises de plus de 50 salariés. Le procès-verbal doit être établi dans un délai de 15 jours qui suit la réunion, à défaut d'accord collectif contraire. Et enfin, l'inspecteur du travail ne peut plus prendre connaissance des délibérations du CSE à tout moment, comme il pouvait le faire auparavant. Au niveau de l'organisation des réunions du comité social et économique central, c'est similaire à celui du comité central d'entreprise, l'ancien comité central d'entreprise. Le CSE central se réunit tous les 6 mois et une réunion exceptionnelle peut être organisée à la demande de la majorité des membres. Les réunions peuvent se tenir en visioconférence par accord entre l'employeur et les membres élus du CSE central. À défaut, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile. Comme pour le CSE, hein. Comme pour le CCE, là, comme pour le comité central d'entreprise, l'ordre du jour doit être communiqué au moins 8 jours avant la réunion. Là, on a repris l'ancienne DUP, hein, le délai de l'ancienne DUP. Voilà pour ces éléments concernant l'organisation des réunions du CSE central. On va s'intéresser désormais à notre dernière partie concernant le financement du comité social et économique. Alors, ici, il faut savoir que le budget de fonctionnement a fait l'objet d'une petite augmentation dans les entreprises de plus de 2000 salariés, où il passe de 0,20% de la masse salariale brute à 0,22%. Au niveau du budget des activités sociales et culturelles, ça reste déterminé par accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur, en respectant un rapport qui est fait par rapport à la contribution que versait l'employeur l'année précédente. Là, il n'y a aucune nouveauté. Donc voilà, c'est pour ces deux éléments. On a une nouveauté concernant l'assiette de calcul du budget, c'est-à-dire la détermination de la masse salariale brute. La masse salariale brute à prendre en considération n'est plus la masse salariale comptable versée au compte 641, qui était prévue dans la jurisprudence de 2014, mais elle est désormais constituée, cette masse salariale brute, par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation sociale au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, du Code de la sécurité sociale. C'est une définition qu'on reprend. Donc désormais, l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation, sauf à l'occasion des indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un CDI, qu'elles soient ou non soumises à cotisation sociale. Alors, ça, c'est l'article L2315-61 du Code du travail qui le précise. Selon la doctrine, selon les auteurs, ça pourrait entraîner une petite augmentation des budgets, cette modification d'assiette de calcul, donc de modification de la masse salariale brute à prendre en considération. Petite nouveauté également, la liste des ressources du budget des activités sociales et culturelles est codifiée, rentre dans le Code du travail. Donc là, on aura la liste des ressources, hein, la contribution de l'employeur sera intégrée avec les donations, ce qui pourra déterminer quelles donations iront dans le budget des activités sociales et culturelles. Pour le transfert des biens du comité d'entreprise vers le comité social économique. Transfert des biens du comité d'entreprise vers le comité social économique. C'est l'article 9, 6e de l'ordonnance 1386, qui précise, donc du 22 septembre 2017, toujours, hein, c'est lors de la première ordonnance, qui précise ce transfert. Il précise que l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du comité d'entreprise, ou des comités d'établissement s'il y en a, des comités centraux d'entreprise, les CCE, des DUP ou des CHSCT, sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE. Donc ça règle le problème, transfert de plein droit au CSE, donc mise en place au terme du mandat en cours des IRP, des anciennes IRP, ou au plus tard au 31 décembre 2019. Ce transfert s'effectue à titre gratuit lors de la mise en place du CSE. Par contre, au niveau du formalisme, il fait l'objet d'une convention conclue avant le 31 décembre 2019 entre les membres du comité social et économique, le CSE, et les membres des anciennes instances. Donc, entre le CSE et les membres des anciennes instances, hein, puisque l'employeur a également participé. qui définissent les conditions du transfert, les droits et obligations, les créances et dettes relatives aux activités transférées. Le transfert de biens meubles ou immeubles ne donne pas lieu à un versement de salaire ni honoraire au profit de l'État, ni à la perception de droits ou de taxes. Un décret devrait être pris pour définir les types de conventions par lesquelles le CSE d'établissement transfère la gestion des activités sociales et culturelles au CSE central. Ça, c'est dans le cas où il y a un CSE central. On a une rétrocession qui peut être faite du budget de fonctionnement également au CSE central par accord. Donc là-dessus, il y a une possibilité de faire ce transfert lorsqu'on a mis en place un CSE central. Voilà. Voilà pour ce point-là. On a enfin une révolution importante en termes de transfert de budget. En effet, la possibilité est offerte au CSE de procéder par délibération au transfert du reliquat de son budget de fonctionnement à celui de son budget des activités sociales et culturelles. Et inversement, c'est une possibilité qui n'existait pas jusqu'alors. On avait uniquement la possibilité de transférer le reliquat du budget des activités sociales et culturelles à des associations humanitaires reconnues d'utilité publique. Désormais, le décret le met en place, possibilité de transfert du reliquat, mais il apporte une limite supplémentaire qui concerne uniquement le reliquat du budget destiné aux activités sociales et culturelles. C'est uniquement 10% de l'excédent annuel de ce budget qui peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations. Donc, on peut prendre tout type d'association, et sinon, c'est un transfert qui se fait du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement, 10% donc maximum. Il n'y a pas de limite dans l'autre sens, on prévoyait une limite, mais elle n'a pas été mise en place dans le décret. Attention, car le transfert du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, donc le transfert sans limite, hein, peut avoir une répercussion sur la prise en charge par l'employeur des expertises. Et effectivement, l'employeur prend en charge toutes les expertises, pas de nouveauté là-dessus, sauf celle sur la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et celle sur les consultations ponctuelles du CSE, opérations de concentration, exercice du droit d'alerte économique, offres publiques d'acquisition, s'il y en a. Par contre, sont exclues celles liées au risque grave et au licenciement économique. Là, dans ce cas-là, l'employeur prend en charge intégralement. Pour ces consultations ponctuelles du CSE et pour la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, l'employeur prend en charge 80%, le CSE prend en charge 20%. Si le CSE n'a pas de trésorerie suffisante pour assurer le financement de ces 20%, dans ce cas-là, il revient à l'employeur de le prendre en charge, sauf en cas de transfert du reliquat du budget dans les 3 années précédentes. Là, dans ce cas précis, l'employeur n'a pas l'obligation de prendre en charge le financement des 20%. S'il ne le fait pas, le comité social et économique se retrouve confronté à un problème de trésorerie. Si l'employeur le fait, peut le faire, hein, il pourrait, selon la doctrine, obliger le comité social et économique à ne pas procéder à de transfert du reliquat de son budget de fonctionnement pendant les 3 prochaines années. Voilà pour ce point un petit peu spécifique. Donc attention qu'un transfert du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles, attention au cas de transfert de ce reliquat, il faut avoir la trésorerie suffisante derrière pour prendre en charge les 20% d'expertise dans ces cas particuliers. Pour les autres changements notables pour les expertises, on a 4 changements. Le CSE a l'obligation de définir un cahier des charges pour l'expert. Ça, c'est une nouveauté. Apparemment, il n'y avait pas de cahier des charges. Les délais d'expertise sont prévus dans le décret du 29 décembre 2017 en fonction du type d'expertise. Le délai de contestation pour l'employeur est de 10 jours à compter de la délibération du CSE pour contester le recours à l'expertise ou au choix de l'expert ou de la notification à l'employeur du coût pour que l'employeur conteste le coût prévisionnel si on n'a pas encore fait l'expertise ou le coût final. Ce délai de 10 jours est toujours prévu dans le décret du 29 décembre 2017. Et enfin, on a une nouvelle procédure d'habilitation des experts par des organismes agréés qui est faite. Toutes ces nouvelles dispositions concernant les expertises, c'est dans le but d'enfermer le comité social et économique dans le respect de sa trésorerie, pour éviter les problèmes de trésorerie derrière, pour qu'il soit responsable dans l'utilisation de sa trésorerie. Voilà, j'ai terminé avec ma présentation. Sur le comité social et économique, on peut procéder à la phase de questionnement. Alors, je voulais vous préciser que pour cette phase de questionnement, je n'aurai pas la possibilité, vu le délai imparti, hein, de répondre à toutes les questions. Par contre, on a la possibilité de vous recontacter ensuite, si vous posez votre question à l'heure actuelle, pour vous délivrer voilà, les réponses. On reste à votre disposition sur ce point-là.
Très bien, merci Jules. Et il y en a. Alors, en vous rappelant que pour poser vos questions, il suffit d'aller sur votre petit, enfin, de cliquer sur le petit picto orange en haut à droite de votre écran.
Voilà, parfait. Alors là, il y a une première question,
Ouais.
peut-être, qui peut être intéressante. Alors, existe-t-il un budget fixé pour les activités sociales et culturelles? C'est la première question qui nous est posée. Alors, en l'occurrence, ici, sur ce point précis, il n'y a pas eu de nouveauté. Donc au niveau de l'ordonnance 1386 et du décret hein, relatif au CSE, le budget des activités sociales et culturelles est mis en place par un accord d'entreprise ou sinon on prend en compte la décision unilatérale de l'employeur de mettre en place donc un budget des activités sociales et culturelles, une contribution. Attention, si l'employeur décide de mettre en place cette contribution, derrière, il sera obligé chaque année de la reverser au CSE, en sachant que pour cette contribution, elle fait l'objet en fait d'un rapport qui est fait. Donc il y a un article précis sur la question que je pourrais vous délivrer. Ce rapport, en fait, c'est la contribution de l'année précédente divisé par la masse salariale brute, qui permet effectivement de donner la contribution à verser au niveau de cette année. Alors, je me fais peut-être mal comprendre. En fait, c'est un rapport de l'année du budget versé, de la contribution de l'employeur versée l'année précédente, divisé par la masse salariale brute. Ça, ce rapport-là, il est à respecter. L'employeur peut prévoir plus, mais il ne pourra pas prévoir moins. Donc, la contribution qu'il verse, il la divise également par la masse salariale brute et il voit si le rapport respecte le rapport de l'année précédente. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. S'il y a besoin, on peut effectivement, vous pouvez poser vos questions complémentaires. Alors, une autre question. Alors, en l'occurrence, ici, les membres. Alors, une première question, une deuxième question, pardon. Alors, la question qui est posée, est-ce que les membres des commissions sont-ils obligatoirement des élus titulaires du CSE? Sinon, les membres des commissions disposent-ils d'heures de délégation? Les membres des commissions sont effectivement obligatoirement des élus titulaires du CSE. Ils auront donc des heures de délégation, des heures de délégation normales qui sont prévues au niveau du CSE. Par contre, il peut leur être octroyé des heures de délégation supplémentaires par accord d'entreprise. Voilà pour cette question. Alors, ensuite. Une autre question. Alors, une question intéressante. Nos 15 salariés sont répartis sur le siège social et il y a 4 établissements secondaires. Sommes-nous concernés par la mise en place du CSE? Alors, ici, donc, au vu des éléments, effectivement, vous êtes bien concerné par la mise en place du CSE, puisque vous avez un effectif qui est supérieur à 11 salariés. peu importe après que les salariés soient répartis dans des établissements, puisque dans l'entreprise, on devra obligatoirement mettre en place un CSE, puisqu'on prend en compte, pour déterminer la mise en place du CSE, l'effectif de l'entreprise, donc l'effectif de tous les établissements compris. Donc là, s'il y a 15 salariés, effectivement, vous devez mettre en place une délégation du personnel du CSE, donc procéder à des organisations professionnelles. Derrière, se posera la question de déterminer la mise en place de CSE d'établissement. Alors là, je renvoie effectivement à ce que j'avais indiqué au niveau des conditions. Donc, obligation d'avoir une autonomie de gestion dans chaque établissement, obligation également d'avoir au moins deux établissements distincts, ce qui semble votre cas. Et après, il faut procéder par la procédure requise, c'est un accord avec un délégué syndical, à défaut un accord majoritaire, hein, avec un délégué syndical représentant une organisation syndicale qui a obtenu 50% aux dernières élections professionnelles. Sinon, à défaut, avec des membres du CSE. Et si l'accord toujours n'est pas pris au niveau de la majorité requise, là, ça sera une délégation, ça sera une décision, excusez-moi, décision unilatérale de la part de l'employeur. Voilà pour ce point-là. Donc, il va falloir voir effectivement derrière, est-ce que ici vous souhaitez mettre en place des CSE d'établissement parce que vos salariés risquent fortement de le demander et ils en auront peut-être effectivement le droit. Après, bien entendu. Il faudra voir, enfin là je réponds au vu des éléments que vous m'avez avancés. Si vous souhaitez là également poser des questions complémentaires, vous pouvez tout à fait. Alors, une autre question. Alors, une question sur le calcul de l'effectif qui se base sur le temps de travail contractuel ou le temps de travail. Travailler hein, réellement dans l'entreprise, par exemple le cas des salariés qui font des heures supplémentaires, ou si le temps de travail de branche est au-delà donc de 151 heures, 67, est-ce qu'on dans ce cas-là on compte une unité en plus? Alors justement, ça c'est une question très intéressante parce que en fait ici les règles ont été normalement changées, donc on compte pour déterminer l'effectif de l'entreprise, au prorata du temps de travail. Ici, pour indiquer au prorata du temps de travail, si on prend un temps de travail contractuel ou un temps de travail travaillé, ça, c'est la jurisprudence qui va pouvoir nous dire à l'avenir. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore de décision concernant le CSE qui peuvent effectivement le dire. Donc ici, pour partir sur ce postulat-là, il faudrait voir soit donc à prendre en compte le temps de travail travaillé réellement, ce qui semblerait plus sécuritaire pour l'employeur, parce que sinon il pourrait avoir une remise en question de ses élections, et sinon à l'avenir, voilà, voir si on a une jurisprudence qui serait plus favorable à l'employeur et qui prévoirait de n'impliquer que le temps de travail contractuel pour les salariés. À temps partiel. Voilà.
Alors peut-être une dernière question, Jules?
Alors peut-être voilà une dernière question et puis de toute façon ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité d'avoir une réponse, hein, donc on se permettra de vous recontacter pour vous donner des éléments de réponse. Alors.
Et on partagera bien évidemment la webconférence sur notre page Facebook. Donc allez liker.
Alors, une question concernant la mise en place du comité social et économique. Plusieurs hypothèses ont été abordées, à l'exception de celle dans laquelle qui concerne la personne qui a posé la question. Il y a eu carence de candidature lors des élections des délégués du personnel en mars 2017 et aucun protocole d'accord préélectoral n'a été conclu. Dans quel délai pensez-vous que nous devons mettre en place un CSE? Alors ici, au niveau de la mise en place de ce CSE, ça va dépendre de savoir est-ce qu'il y avait un protocole d'accord électoral qui a été passé en mars 2017. Si un protocole d'accord préélectoral qui a été signé en mars 2017, dans ce cas-là, vous rentrez dans le cas en fait de la flèche verte, le cas le plus simple comme nous l'avons vu au tout début de la webconférence, c'est-à-dire le cas où on pourra mettre en place à tout moment. Des élections professionnelles par accord d'entreprise ou sinon par décision unilatérale de l'employeur avec consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Vous, ici, puisqu'il n'y a pas d'accord, puisqu'il n'y a pas eu en fait de représentants, de délégués du personnel, puisque vous avez dit qu'il y avait eu carence de candidature lors de ces élections avec un PV de procès-verbal de carence. Dans ce cas-là, dès qu'un salarié demandera à mettre en place les élections professionnelles, il faudra effectivement procéder à ces élections en sachant que vous devez respecter la date du 31 décembre 2019. Si au 1er janvier 2020, vous n'avez pas organisé d'élection professionnelle, vous n'avez pas de mise en place du CSE, là, effectivement, ça pourra vous être reproché. Donc, il faudra quand même prévoir l'organisation d'élections professionnelles à l'avenir avec les dispositions que j'ai indiquées. Voilà.
Merci, Jules.
Je vous en prie. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette webconférence et je vous souhaite une bonne journée.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 01 75 75 36 00. Merci à tous.
Merci à tous. Au revoir.